En attendant de retrouver vos habitudes à la rentrée, on vous propose de découvrir cette nouvelle émission dont vous pouvez retrouver tous les épisodes sur franceculture.fr et l'application Radio France.
À voix nue. Cette semaine, Émilie Aubry rencontre Valérie Lemercier, femme drôle avec sérieux. Ce soir, seule en scène.
Cette semaine, dans À voix nue, on est avec Valérie Lemercier. Bonjour Valérie Lemercier.
Bonjour Émilie.
On est ensemble pour cette deuxième séance, toujours dans votre très bel atelier parisien qui donne sur ce grand jardin. C'est l'hiver, on a aussi mangé de la galette des rois avant de se parler. Et hier, on a parlé du rire de l'enfance, de cette petite fille qui a grandi dans une ferme en Normandie, dans une famille de quatre filles, qui aimait lire Caroline notamment, mais pas que, et qui accrochait des portraits de Michel Simon dans sa chambre.
Et de chevaux.
Et de chevaux aussi. On a rapidement parlé d'équitation hier. Alors, vous voici à Paris. Racontez-nous les premiers jours. Vous êtes donc dans ce Paris des années 80. Vous vous y sentez comment ?
Très bien. Je trouve tout beau. Je trouve que, en fait, dès que je suis allée à la ville, quand j'ai commencé à Rouen, mais j'ai aimé parce que tout le monde ne se ressemblait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait enfin voir. Moi, j'étais toujours attirée par les autres, par ceux qui n'étaient pas comme nous, toujours. Donc, enfin, il y avait de tout, beaucoup de gens différents. J'aimais ça, pouvoir regarder, pouvoir. Je trouvais ça beau aussi. J'étais au bon endroit.
Au bon endroit, ça voulait dire quoi ? Vous saviez que vous vouliez devenir comédienne ?
Oui.
Comment on fait quand on débarque de sa Normandie à Paris et qu'on a ça à l'intérieur de soi ? Comment on sait comment s'y prendre ?
Ben non, en fait, je savais très bien que je ne jouerais jamais des jeunes filles. Je n'avais pas le physique de mon âge et je n'ai jamais postulé parce que je savais très bien que je ne pourrais jamais jouer une fille de 18 ans.
Mais est-ce que d'abord vous avez tenté de passer des concours d'école de théâtre, la Rue Blanche ?
Oui, bien sûr, je les ai tous ratés.
Qu'est-ce qu'on vous disait ?
On ne vous dit rien, on vous dit que vous n'êtes pas pris, mais on ne vous dit pas pourquoi.
On n'explique pas.
Non. Donc j'ai quand même fait un autre conservatoire, qui était le conservatoire gratuit, parce que c'était important, je ne pouvais pas non plus me payer des cours payants. Donc je suis allée au conservatoire du 10e, où là, il y a eu deux merveilleux professeurs, Jean-Louis Biéraud et Jean-Pierre Martineau. Et je prenais des cours là, dans un cours d'arrondissement gratuit, et où j'allais assidûment.
Vous sauriez dire ce que vous avez appris avec eux, avec ces professeurs-là ?
Mais ça s'était bien passé à Rouen aussi, où j'ai passé 3 ans. Disons que là, je me souviens, on me disait, il faut pas faire du Louis de Funès. Je me disais, ah bon, pourquoi, c'est pas bien. On vous expliquait déjà que c'était pas forcément bien de, à cette époque, c'était pas forcément bien vu d'être drôle ou d'être amusant ou de faire rire, en tout cas. Mais ça fonctionnait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est d'ailleurs quand des jeunes me disent ouais, comment on fait, c'est Annie Dupéret que je suis allée voir dans cette rue là qui sortait du théâtre du Palais Royal et je suis allée la voir, je lui ai demandé des conseils et elle m'a dit prenez des cours parce que c'est là que vous allez rencontrer vos copains
et les gens c'était vrai.
Oui, c'est là où vous allez et c'est vrai et c'est Nanou Garcia qui m'a vue dans une pièce de fin d'année et qui m'a proposé un rôle vacant parce qu'elle m'avait vu là. Donc, on jouait Place Saint-Sulpice dehors. Elle m'avait repérée. Elle était une ancienne du cours qui commençait déjà à travailler. Et donc, elle avait raison, Annie Dupéret. Et c'est vrai que prendre des cours, c'est ne pas être seule, c'est être avec d'autres, c'est se passer des tuyaux, c'est dire, tiens, là, il y a une audition, quelqu'un vous voit, quelqu'un... Donc, quand même, c'est comme ça. C'est en prenant des cours, là, que j'ai commencé et ça se passait bien. Ça se passait bien parce que j'ai l'impression que d'être singulière ou d'être particulière, je sais pas comment on dit, ça allait, c'était pas trop mal vu, faire rire. Mais voilà, donc j'ai travaillé des scènes, on faisait des improvisations, on faisait du sport.
C'était évident pour vous que ce que vous vouliez faire, ce qui serait votre identité de comédienne, c'était le rire ?
Oui.
Là, c'était sûr ?
Oui. Mais vous savez, même les premières pièces que j'ai jouées, je faisais rire je dis malgré moi, mais pas tant que ça, mais je jouais dans des pièces sérieuses et les gens riaient en me voyant. Donc je me disais, peut-être que quelque chose est drôle quand on me voit.
Vous n'avez pas envie de l'expliquer, ça ? C'est pas intéressant. Faut surtout pas l'expliquer.
Ben non, je ne saurais pas dire pourquoi. Je pense que moi, je crois que le rire, ça naît de l'excès de sincérité. C'est pour ça que c'est toujours marrant. C'est ça qui est toujours drôle, c'est la vie. Quand je joue un personnage, j'essaie. C'est souvent des personnes que je connais, même parfois pour les avoir vues une heure. Ça suffit. Ça suffit parfois pour faire un personnage. Vous savez, quand, je sais pas, un de vos amis imite sa mère, vous l'avez jamais vu sa mère, mais vous savez s'il le fait bien ou pas.
Ça sonne juste ou ça sonne faux.
Voilà, donc j'essaie toujours de donner l'émotion que j'ai en voyant quelqu'un, ou l'étonnement, j'essaie de le restituer. En fait, je suis très voyeuse, je voudrais être une petite souris, c'est pour ça que j'aime les téléréalités, mais de voir les gens dans leur intimité, et c'est ce que je fais dans mes films, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans les cuisines, dans les chambres,
Alors justement, pour ce deuxième épisode, on va en parler de ces spectacles, mais c'est compliqué d'en parler sans parler de Palace en 1988. Cette émission dont vous allez devenir un des personnages les plus importants, Lady Palace, vous lui devez beaucoup à Jean-Michel Ribes en 1988 lorsqu'il vous propose, je sais pas si on peut dire un rôle parce que c'est la télévision, mais
il m'avait pas proposé un rôle, il m'avait proposé de faire partie d'une troupe de jeunes acteurs et on était là pour boucher les trous. On était là pour, s'il y avait une phrase à dire, il avait au moins sous la main un petit cheptel, je sais pas comment on dit, d'acteurs qu'il avait un peu repéré. Je lui avais envoyé une photo. Et sur cette photo, je m'appelle Le Mercier, donc j'aime la mercerie. J'avais fait faire des rubans avec mon nom et mon numéro de téléphone. J'avais mis un nœud, j'avais des lunettes, donc je me suis pas présentée comme une jeune fille mignonne et séduisante. J'avais déjà un air un peu pincé, peut-être, revêche, un peu dur. Et j'avais mis ce nœud, et sur ce nœud, il y avait mon téléphone, et je me suis dit, peut-être qu'il remarquera ça. Et c'est arrivé. Et donc, quand il a vu, il a dû recevoir, je sais pas, 50 photos par jour, à un moment donné. Il est tombé sur cette photo, et il m'a appelé pour remplacer dans un téléfilm qui s'appelait « M'as-tu vu ?» et qui se passait dans les jardins du Palais Royal.
Vous dites juste une phrase et ça a suffi pour que...
Voilà, et il y avait un flic, il y avait un acteur qui n'était pas disponible. Et moi, il m'avait laissé un message sur mon répondeur. Je suis arrivée à temps. Il m'a dit « Si vous m'appelez après demain, c'est trop tard. » C'est demain. Et je suis arrivée à temps aussi parce que j'avais fait un truc pour Lina, je me souviens. Et j'avais demandé à quelqu'un de me ramener, c'était loin. Et ce quelqu'un m'avait dit non. Et j'avais insisté, j'avais osé insister. Et si j'avais pas insisté, j'aurais pris 3 bus pour rentrer et je n'aurais pas eu ce message. Donc j'ai demandé à ce qu'on me ramène à Paris, alors qu'on me disait non. C'est pas à moi qu'il faut dire non. Donc j'avais eu le message à temps. J'avais fait cette petite scène avec Philippe Corsan. J'étais une flic. C'était un garçon, c'était un flic et c'était devenu
une femme suivie.
Je les suivais dans la rue. Et ça lui a plu, cette petite scène. Donc, il m'a appelé pour faire partie de ce fond de troupe. Il appelait ça comme ça. On était une quinzaine de comédiens. Donc, dans Palace, j'ai fait au tout début de la figuration. J'avais des chaussures trop petites, un chapeau. On m'appelait la dame avec le chapeau. Et comme j'avais déjà un peu l'intention d'écrire un spectacle, je lui ai dit un jour, je m'en vais. Ça m'intéresse pas de monter des marches de dos, parce qu'au moins, quand je faisais des podiums dans les grands magasins avec mes collègues, on m'appelait par mon nom et j'étais une
Que vous faisiez aussi des petits boulots aux Galeries Lafayette.
Aux Galeries Lafayette, au printemps, je vendais des crèmes, des parfums, des savons. Au moins, on m'appelait Valérie et là, on m'appelait pas par mon nom. On traite mal les figurants de manière générale.
Et alors, il vous
propose. Et là, il m'a proposé de faire une petite chose, et puis une autre, et puis une autre. Et ensuite, il se trouve que Dominique Lavanant devait jouer Lady Palace. Ça s'est pas bien passé. Donc un jour, il m'a dit, voilà, est-ce que tu veux bien reprendre ce rôle? Tu as 2 jours pour tout apprendre.
Vous voulez bien raconter Lady Palace à ceux qui, les pauvres, n'ont pas connu
c'est
Palace?
C'est une femme j'avais son tailleur, le sien, qui était fait pour elle. Un espèce de faux tailleur Chanel avec une lavalière, avec un gros chignon. J'avais 23 ans, 22 ans. Et je faisais « Hello les amis !» Voilà, donc je jouais une femme qui parlait face caméra, qui donnait des conseils. Et voilà, je jouais une femme de 50 ans. Enfin bon, voilà, en tout cas...
Capable de dire des horreurs, mais avec un accent de grande bourgeoise ou de grande
aristocrate. Voilà, et donc je suis allée le week-end dans ma famille et j'ai passé mes 2 jours à apprendre par cœur, debout, assise. Évidemment que j'ai dit oui et évidemment que j'ai appris. Et le seul mérite que j'ai eu, c'était que je savais. Et après, jouer n'est pas difficile.
Oui, ça, vous le répétez à longueur d'interview. C'est qu'en fait, être une bonne actrice, c'est d'abord avoir les bons mots à dire.
Je ne dis pas que je suis... Oui, bah oui, ça c'est sûr. Si c'est mal écrit, vous ne vous en sortez pas et personne ne peut s'en sortir.
Il vous allait, ce personnage de Lady Palace, ça vous allait à 23 ans de jouer
ouais,
cette...
Mais c'était un travail. C'est la première fois que je gagne ma vie. Un petit peu, c'était pas... C'est la première fois que je gagne ma vie avec mon métier.
Et que vous devenez un peu connue, parce qu'à l'époque, tout le monde parle de Palace.
Alors, au début, ben, on tournait, donc le truc n'était pas passé. Il y a mis... Après. Ce que je veux dire, c'est que quand on tournait ça, ça passait pas en même temps. Mais quand on les faisait, non. Mais Pierre Mondy, qui est venu un jour ou deux ou trois tourner, m'avait repéré, là, et m'a demandé de passer des essais pour jouer dans un Feydeau, un fil à la patte, encore là,
tout près de là où nous sommes aujourd'hui,
au théâtre du Palais Royal, et de jouer la grande sœur ingrate, vieille fille, un petit rôle. J'ai passé l'audition, je me souviens très bien de comment j'étais habillée, de cette audition, et j'ai été choisie, donc j'étais tellement heureuse, parce que pour moi, Feydeau, c'était le Graal. Pierre Mondy aussi, le Théâtre du Palais Royal aussi. C'était le quartier dans lequel je suis arrivée.
C'est là où vous deviez être. C'est la découverte du théâtre. Et en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que très vite, vous décidez d'écrire un one-woman show.
Oui.
Ce qui, pour moi, est la mise à nu la plus difficile.
Mais c'est parce que j'avais commencé à écrire un one-woman show que j'ai pu dire à Jean-Michel Ribes, je ne reste pas. Ça ne m'intéresse pas, parce que je préfère être une personne que d'être la dame qui marche avec des chaussures trop petites et qui monte 50 fois de dos.
Mais c'est très courageux à la vingtaine, 23, 25 ans, de se dire que je vais monter seule sur scène. Un one woman show, c'est la nudité absolue.
D'ailleurs, le premier personnage que j'ai écrit était une petite fille. J'avais passé une audition avec Paul Lederman, où je n'avais pas été prise, mais... J'avais commencé à écrire un, deux, trois personnages. Donc, j'avais déjà ma petite autonomie. Et puis, si je voulais gagner ma vie, il y avait ces podiums que je pouvais faire. À l'époque, ça fonctionnait bien. Et surtout, c'est là, dans ces grands magasins, que j'ai vu mes premiers personnages. C'est-à-dire les dames qui travaillaient, les clientes, les fausses clientes, les vraies, tout ça, et les collègues.
Ce personnage de l'esthéticienne, vous avez encore sa voix en tête ?
Joy, alors là, je l'ai rencontrée plus tard parce que c'est une réalisatrice qui parlait comme ça avec la voix de, avec des voix un petit peu de
très enrhumée,
très très prise de. Parce que en fait, j'ai connu cette Joy qui s'appelait Joy. Elle m'a proposé un film à 2 semaines de faire mon deuxième spectacle où il me manquait beaucoup beaucoup parce que je l'ai écrit en 15 jours, il me manquait beaucoup de matériel, j'avais pas beaucoup de choses et elle m'a fait rire et donc elle est devenue un personnage que j'ai rejoué plusieurs fois avec des textes différents mais sa voix, et il se trouve qu'elle était enrhumée, c'est-à-dire que si elle n'avait pas été enrhumée, elle bon des axes cause à moi, je suis un peu enrhumée, donc elle aurait, la veille elle l'aurait pas été, le lendemain non plus, donc j'ai eu la chance de déjeuner avec une femme enrhumée, je sais même pas pourquoi je suis allée alors que j'étais à 15 jours de faire un spectacle où j'ai accepté un déjeuner. Mais ça a été bien utile.
Et elle parle de façon très scientifique, avec des termes très techniques de son travail.
Ah oui. Elle est très sérieuse, c'est ça qui est drôle. Non, mais elle vendait des... C'était les ledeux, les cotecules, enfin, c'était très, très sérieux. Et surtout, en fait, elle avait un but, c'est qu'elle voulait me refourguer son grand-fils qui vivait à la maison, qu'elle trouvait que j'étais la personne... Enfin, la personne à qui elle s'adressait, parce que tous mes personnages s'adressent à quelqu'un, même si je suis seule sur scène, mais je joue des personnages qui sont pas seuls, qui sont avec d'autres, qui se confient, qui viennent de milieux totalement opposés. Je joue aussi des hommes, je joue évidemment des enfants, mais...
Et très peu de personnages réels, à part peut-être Jean d'Ormesson, qui a surgi dans un de vos spectacles.
Oui, dans le dernier, il venait à la fin me féliciter. Voilà, de son vivant d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand il est venu me voir, il a dit « c'est drôle, c'est très drôle ». Il les disait comme moi. Très drôle! Mais je l'avais vu, je peux vous expliquer.
Qu'est-ce qui vous plaisait tant dans le personnage de Jean d'Ormesson? On a l'impression que vous êtes toujours, au fond, fasciné par les aristocrates, par les grands bourgeois.
Oui, parce qu'ils sont gays, parce qu'ils ne se plaignent pas, parce qu'ils voient toujours. C'est toujours. D'abord, je n'aime pas jouer des personnages tristes, que ça rend triste de jouer des personnages neurasthéniques. Et je trouve que ces personnes, leur côté. Ils ont toujours l'impression d'être bien, de faire des bonnes choses. Donc, ça m'amuse. Et d'ailleurs, les personnages les plus tristes, plus on les joue gaiement, plus c'est drôle. J'aime jouer des méchants aussi, mais il y a une certaine truculence que j'aime bien dans les... Voilà, j'ai pas du tout envie de jouer des gens tristes.
Je me souviens du personnage d'une fille qui n'aime plus son mari, qui s'en rend compte sur une plage.
Ouais, Zoya. Mais Zoya, elle était ouvreuse au Théâtre de Paris, dans mon deuxième spectacle, et elle me disait, Valérie, c'est pas quand tu seras morte que tu iras au karaoké. Oui, bon, elle me parlait comme ça. Et donc, ce personnage m'a beaucoup plu, parce qu'elle est toujours gaie. Elle m'a dit une fois dans la vie, j'ai pas de travail, mais celui qui me trouvera du boulot, il a de la chance parce que j'ai de l'énergie à revendre. Oui, bon. Donc, elle est tout le temps gaie, et là, je trouvais ça marrant, quelqu'un qui s'amuse de ne plus aimer son mari parce que ça arrive, et quelqu'un pourtant d'aimable, ce mari n'était pas, mais elle se fait chier. Et donc, elle s'ennuie, là, justement, elle dit, je rentre chez moi, je me fais déjà chier. Rien qu'en voyant la clé. Donc, c'est horrible. C'est horrible. Je pense que c'est le pire de tout, de se faire chier avec qui que ce soit.
Comment vous écrivez vos spectacles ?
Alors, j'ai commencé par me filmer pendant des heures, à faire des personnages, j'improvisais. J'ai d'abord eu un dictaphone. Donc, d'abord, c'était la voix. Après, je me filmais. Et toute la journée, je faisais des heures de... Et après, je regardais, puisqu'il me faisait rire, ça restait. J'écrivais ensuite.
Vous avez quelque chose avec les mots ? Ça vous plaît, ce contact avec les mots ? Ça vous plaît de coucher des mots
La
sur
voix
une
me
feuille.
Plaît. D'ailleurs, je commence par des mots. Le corps, moi, c'est quand même un peu vrai que la mise en scène, ça vient comme ça. C'est-à-dire le personnage, si je passe tout mon temps à l'écrire, et si ça va, si les textes me plaisent, si je trouve que c'est fluide, que c'est facile à dire, on va dire, après, le corps suit. Ça va tout seul. C'est pas difficile non plus. C'est ça le travail, le vrai travail un peu ingrat, un peu long et satisfaisant parfois, et merveilleux et ingrat quand même, c'est d'écrire. Après, c'est s'amuser.
Donc dans l'ordre, il y a quoi ? Il y a trouver la voix ?
Oui, trouver la voix,
le corps.
Le corps suit. Et je dirais que mon plaisir, quand je suis sur scène, ce n'est pas du tout un plaisir d'actrice, c'est un plaisir d'auteur. C'est-à-dire que quand ça fait rire les gens, je n'ai pas le temps de me dire, mais je me dis... Voilà, je me dis peut-être que c'est pas trop mal écrit. Faut pas que ça ait l'air d'être écrit. Faut que rien n'ait l'air d'être écrit.
Vous êtes quelqu'un qui aime le cadre.
Mais c'est-à-dire qu'on passe tellement de temps à gommer, à corriger, à changer de passe. Mais même quand je préparais les Césars et même que tout le monde se moquait de moi, qu'est-ce que je dis ? Je dis ou pas ou. Enfin, je veux dire, je suis maniaque. Donc, pourquoi je dis ça ?
Parce que vous dites qu'une fois que vous tenez les bons mots, etc., vous n'improvisez pas.
Non,
et que
parce
sur scène, c'est très cadré.
Parce que je n'ai pas d'imagination quand je joue. Oui, dans la vie, bien sûr, il y a des choses qui sortent comme ça. Tout à coup, on peut avoir de la propos, on peut avoir de l'esprit, on peut avoir. Mais en tout cas.
Mais pas sur scène, c'est pas le lieu
pour ça. Et même au cinéma, je ne crois pas quand de temps en temps, oui, on improvise un peu, mais je crois que ça doit être prêt avant. C'est très ennuyeux l'improvisation, ça m'ennuie. J'aime quand c'est cadré, j'aime quand ça va vite. Et d'ailleurs, quand vous tournez, que ce soit comme actrice, comme metteur en scène, si vous avez fait 10 prises, vous vous rendez compte que la bonne, elle est beaucoup plus courte que les autres.
Il y a une histoire de rythme.
Oui.
Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous avez toutes vos voix, toutes ces voix qui ont constitué vos spectacles ?
Oui.
Est-ce que vous êtes une banque de vos propres voix ?
Oui, et d'ailleurs, c'est bien d'en avoir plusieurs, parce que je ne me perds pas, ça ne m'encombre pas dans ma vie. C'est-à-dire que j'en fais 15, 20... Bon, après, je sais pas, peut-être quand on joue un rôle, on l'a un peu dans la, on reste un peu le soir ce personnage-là, mais c'est en 2 secondes qu'il faut passer d'un personnage à l'autre. Donc, ça vous encombre pas.
Toute votre vie, vous ferez des stand-up? Des spectacles?
J'espère.
Il y aura des tournages devant, derrière la caméra, mais toute votre vie, régulièrement, il faudra que vous remontiez sur scène avec vos spectacles.
Oui, moi, je dis parfois, le théâtre, le cinéma, c'est comme son père, ça fait rêver, le théâtre, c'est comme sa mère, on y revient toujours. Il y a quelque chose, oui, et peut-être qu'on part trop loin en arrière, enfin ou maintenant, mais je pense que si j'ai voulu faire Aline, c'est que j'ai voulu parler de la vie d'artiste. Pour jouer une artiste de scène, il faut connaître la scène, parce que c'est très particulier. On sait où ça coule, la transpiration quand on a des suées, on sait quand on a un trou de mémoire. J'ai eu un trou de mémoire terrible un jour, un gros trou de mémoire seul. D'ailleurs, depuis, j'utilise un subterfuge. J'ose le dire et je m'en fous. Je ne peux plus me passer. Je ne m'en sers pas, mais j'ai une oreillette parce que je trouve ça trop risqué quand on est devant 3000 personnes.
C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar et je veux pas que ce soit un cauchemar. Donc, quelqu'un a un texte et parce que un jour, je devais jouer et j'ai eu un trou de mémoire et le régisseur avait le texte en main et m'a soufflé, je. ce mot-là. Je, qui criait de plus en plus fort, tout le monde a fini par entendre je. Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec je, qui est un mot peut-être qu'il dit 500 fois dans l'heure et demie de spectacle. Je suis allée prendre le texte et... Mais je me souviens exactement de ce moment, je me souviens de la suée, je me souviens de l'eau qui coulait dans mon dos, et je me suis dit, je ne veux plus jamais...
Revivre ça.
Ben non.
C'était dans quel théâtre ?
C'était au Folies Bergère.
Parce que vous dites aussi souvent que vous avez un attachement incroyable au théâtre. Parfois, vous choisissez une salle avant de savoir quel spectacle vous allez faire.
Oui, et je dessine l'affiche.
Palais Royal, Folies Bergère.
Je dessine l'affiche avant d'écrire le spectacle. Je fais mon costume.
Comment vous expliquez ça ? Ça veut dire que pour vous, chaque théâtre parisien
pour
a
moi,
une identité,
oui,
un style.
Bien sûr, on ne joue pas la même chose au Folies Bergère qu'au Théâtre de Paris. Et pour moi, la forme fait le fond. Enfin... Parlons de nous. Si on va à un mariage, comment on va s'habiller ? C'est la question qu'on se pose. Si on va à un rendez-vous, comment on va s'habiller ? C'est un rendez-vous que j'ai avec les gens. Donc, c'est très important. Ça m'avait frappée. J'étais allée jouer au Canada et j'avais au Québec, où ça s'est d'ailleurs très très mal passé, parce que tout le monde a quitté la salle. Bref.
Pourquoi ?
Un mauvais concours de circonstances. Je n'avais joué qu'au Splendide. Pendant 9 mois, avec succès, et puis je suis allée jouer mon spectacle en entier à Montréal, et Air Canada avait acheté une des deux dates, en offrant à leur personnel les places, et eux pensaient voir Claudine Mercier, une imitatrice québécoise, qui n'était pas moi, et ils ont tous quitté la salle, j'ai terminé le spectacle seule. Donc c'est d'ailleurs, je n'ai jamais voulu depuis retourner au Québec de ma vie, jamais. Parce que j'étais meurtrie de ce truc. J'ai pleuré toute la nuit, et puis le lendemain, je suis allée jouer mon deuxième soir, et là, c'était des gens individuellement qui avaient acheté une place, ou deux, ou trois, et ça s'est très bien passé. Mais, et d'ailleurs, si je joue à Paris devant des gens qui me connaissent, et que dans une salle de 2000 places, il y a un groupe de comités d'entreprise, de gens qui n'ont donc pas choisi, j'essaie de les casser, de les dispatcher, parce que le spectacle pour eux est dans la salle. Ils se regardent, on n'ose pas rire. On regarde la femme du collègue qu'on n'a jamais... On a connu un collègue pendant 20 ans, je ne sais pas, quand sa femme. C'est le spectacle. Donc, tout à coup, on n'est pas le sujet. Ça ne représente aucun intérêt, surtout qu'on l'a obligé à venir. Donc, imaginez dans un autre pays, imaginez en pensant avoir la joie de voir quelqu'un qui n'est pas cette personne qu'on voit. Et ça m'avait frappé parce qu'il y avait des stand-up et les gens arrivaient habillés d'une certaine façon. Ils restaient comme ça sur scène. Ils étaient très surpris que je m'habille pour jouer. Moi, par exemple, je ne veux pas marcher dans la rue avec mes chaussures de scène. Et de même que s'il y a des gens qui sont là, qui veulent aller voir comment c'est sur scène avec des chaussures, je n'ai pas envie qu'il y ait des crottes de chien dans...
C'est un espace à part. C'est un espace un
c'est
peu sacré.
C'est sacré. On ne monte pas sur scène comme ça.
C'est sacré, et vous dites d'ailleurs que vous sacralisez ce moment où vous allez au théâtre. D'ailleurs, vous aimez fondamentalement ça, de savoir, vous dites l'hiver, il faudrait pouvoir aller tous les soirs au théâtre.
À part quand il fait beau, mais je trouve que quand il fait pas beau, des fois je dis je fais du théâtre pour pas être invitée à dîner, mais c'est un peu vrai.
Ça marche bien d'ailleurs.
Ouais. En ce moment, c'est pratique. Non mais, c'est... je m'y sens bien, je m'y sens chez moi, et c'est... Pourtant, je parle pas de la scène, mais c'est très laid. Plus les salles sont grandes, d'ailleurs, plus c'est laid. Mais c'est laid, les endroits où... Les zéniths...
Qu'est-ce que vous aimez ? Vous savez mettre des mots sur ce bonheur-là que vous éprouvez quand vous rentrez dans un théâtre, avant que le public soit là, quand vous allez vers votre loge, la préparation ?
C'est que je suis toute au soir. Mais même dès que je me lève, je suis toute à... ma journée n'est pas la même que je joue ou pas.
Parce que c'est cadré, en fait, parce que vous savez où s'arrête la journée.
Je sais où je vais aller... Et d'ailleurs, j'y vais de plus en plus tôt. En tournée, j'y suis parfois le matin. Je me prépare à manger. Je veux qu'il m'arrive rien du tout. Donc, je veux qu'il m'arrive rien. Donc, je suis dans une loge, j'écoute de la musique, je fais ma danse, je fais la cuisine, je suis avec mes collègues, parce que je suis quand même pas seule, hein. On est nombreux parfois. Quand j'ai déjà fait des tournées de Zénith, où on est 18, il y a même des cuisiniers parfois qui font la cuisine. Voilà, c'est un rendez-vous que j'ai avec les gens.
Sur scène, vous faites tout. Vous dansez, vous chantez. Parce que vous avez dit que, par exemple, quand vous présentez les Césars, en fait, pour vous, c'est comme un spectacle.
Oui, je veux que ça soit amusant. Je ne veux pas ennuyer les gens. C'est déjà assez chiant comme ça. Et je ne sais pas pourquoi ce public a la réputation d'être difficile. Ça n'est pas vrai. Il faut détendre l'atmosphère. C'est ma vie, c'est mon rôle. Détendons-la le plus possible et en même temps en passant les plats. Mais moi, je préfère offrir que recevoir. Ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça m'a beaucoup plu. J'aime bien passer les plats, j'aime bien... Ça me plaît plus de les présenter que d'en recevoir.
Parce que c'est cadré, parce que c'est normé, parce que vous êtes sur une scène. Est-ce qu'elle est sur un plateau de télévision? C'est un peu comparable à être sur une scène?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que sur une scène, on est heureux quand on sort. Et quand on sort d'une émission de télévision, on est rarement heureux. On n'a pas dit ce qu'on voulait, on vous a coupé la parole, on n'a pas été soi-même, on a parfois fait rire les gens sans rien dire. Vous savez, quand vous avez la réputation d'être drôle, vous dites vous dites bonjour, et ça, parfois, c'est surprenant, parce que j'ai déjà fait ça. C'est Jean-Marie Poiré qui disait ça. Il disait, moi, ils me connaissent pas, les gens, donc parfois je suis beaucoup plus drôle que Christian Clavier ou que Valérie. Quoi. Mais les gens ne rient pas, parce qu'ils savent pas que je suis drôle. Donc il y a un truc où il y a une espèce d'acquis, où des fois, sans rien dire. Donc enfin, bref, quand on... Pas de toutes les émissions, mais 3 sur 4, on sort de la télévision vidée et pas remplie, et triste. Alors que de scène, d'ailleurs, quand on regarde son visage, quand on sort de scène, on n'a pas du tout la même tête qu'à l'aller. On n'a pas du tout la même tête en sortant. On est très heureux quand on sort de scène. On est d'ailleurs pas du tout fatigué, c'est impossible de dormir, mais on est boosté.
On est beau, on est comme si on revenait de la montagne.
Exactement, on est beau, ouais.
Et quand on sort d'un plateau de télé, pas forcément.
On est atroce.
Une fois, je vous ai vu sur un plateau de télévision d'une émission en grand public. Je crois que c'était dans Quotidien. Et puis, il y a Amel Bent qui est là. Et vous vous mettez à chanter, à danser sur une chanson d'Amel Bent. Et quelqu'un vous dit, t'as pas honte. Et tu dis, moi, je n'ai honte de rien.
C'est ça, vrai. C'est que... Alors, elle n'était pas là, Amel Bent. Il se trouve que j'étais avec Melra, que vous avez vu tout à l'heure. Nous étions là pour un film. Alors d'abord, il y a deux raisons pour lesquelles c'est que je ne voulais pas parler du tout d'Aline, et donc j'ai préféré faire une chanson.
Diversion.
Et il y a un truc en ce moment qui consiste à dire, dans toutes les questions quand on fait des trucs, quel est le film dont vous avez honte, que vous regardez en cachette, la chanson que vous avez honte d'écouter. Et moi, je n'ai jamais eu honte d'écouter une chanson, ni de le truc honteux. Je comprends pas pourquoi ce truc. Il y a maintenant dans tous les questionnaires le truc honteux que vous mangez honteusement, que vous regardez honteusement. J'ai dit, c'est pour, il fallait dans Quotidien, il faut choisir sa chanson pour danser, sa chanson pourquoi. Et la fameuse chanson honteuse, j'ai dit, moi je l'ai pas. Non seulement j'ai pas honte, mais je vais vous la chanter. Bien sûr que non, j'ai pas honte. Pourquoi avoir honte?
C'est pas ça que je voulais vous amener à dire, c'est...
Mais elle était pas là, Amel Bent,
Elle était derrière.
C'était sa chanson.
Non, c'est que je me pose toujours la question du rapport à la honte et au ridicule qu'on peut avoir. Est-ce qu'en fait, quelqu'un qui fait du one-woman show a en permanence peur de ne pas être drôle et donc ça a à voir avec le ridicule?
On fait rire pour essayer de pointer ça, pour essayer de montrer la tragédie de la vie et le ridicule des situations et le... Voilà, mais je pense pas que le moteur des gens qui sont drôles est de ne pas être ridicule. Je pense pas. Mais bien sûr, j'ai honte de plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pas d'aimer quelque chose, ni quelqu'un.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Aubry avec Valérie Lemercier. À voix nue, réalisation Luc Jean Reynaud, prise de son François Rivalan, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.